Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Bedini, Morgane Bedignan, Jérémy Crédville, Tanguy Passero, Daniel Morin et notre invité Michel Bougenot. Michel Bougenin, nous allons parler avec lui du festival de Ramatuelle, sublime festival, les nuits classiques également. Ouais. Tout démarre le 27 juillet jusqu'au 11 août. Et donc, pour évoquer...
Été, summer.
Alors
Ramatuelle.
T'as une idée ou pas? Été, summer pour le blind test.
Ouais, il y a pas beaucoup de chansons.
Il y a pas beaucoup de chansons,
non,
Ramatuelle.
Non, c'est classique. Qui viennent du...
Juillet-août.
Juillet-août.
Chanson avec Michel Bougenin.
Pas loin. Pas loin.
Tous les Michel.
Non,
ça va tous pas les être.
J'ai dit quoi?
Ça sera pas tous les
ouais,
Michel.
Ouais, voilà. Ça sera pas tous les Michel. Bonne idée.
Alors?
Ça sera.
Oh putain. Jérémy.
Ouais.
C'est le. Non, je laisse.
Je l'avais, mais je l'ai
plus. Si, mais c'est bien Patrick Sébastien.
Mais oui.
Ouais, bah, c'est l'été,
alors, c'est
quoi.
Ce truc de fête de... Oh mince.
Ah, c'est
peur.
Sur les serviettes.
Attends, j'ai très
les serviettes
peur.
De plage.
Les masques, j'ai très très peur. Est-ce qu'il y aura touché la chatte à la voisine? Parce que c'est quand même.
C'est quand même l'un des plus beaux blind tests. L'un des plus beaux blind tests de la bande originale.
Souvenez-vous, c'était spécial animaux et il m'a touché la chatte à la voisine.
Impeccable.
Mais comment passer à côté de ça?
C'était magique.
Attention.
Ah, Jérémy.
Morgane.
Vas-y.
Aline.
Aline, non. Jérémy, vite.
C'est Julien Doré.
Pardon?
C'est pas Julien Doré?
Non.
La tristitude. Ah, mais non, c'est Olaf.
Morgane.
C'est Olaf, mais vas-y, tristitude. C'est vrai que ça commence comme un Julien Doré. C'est toi.
Mais c'est quoi le thème? Mais c'est ça l'intro, ouais, c'est ça.
C'est chanson pourrie.
C'est un peu bien, Olaf, t'es fou. T'es fou. La
tristitude.
J'avoue que j'ai du mal à faire un.
Attends, on va faire le thème.
Ok.
C'est un mashup. Ah, le thème, c'est les intros qui n'ont rien à voir avec la suite.
Daniel,
ouais.
William Farmer.
Ouais.
Non.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit, non, ça commence comme ça.
Les Enfoirés.
Les Enfoirés.
Ouais.
Ouais. Mais
tu veux pas dire Leïla?
Leïla, les Enfoirés.
Non, c'est pas les Enfoirés.
Si.
Si, non, c'est le début. Aujourd'hui, on n'a plus le droit.
Ouais,
écoutez.
C'est pas Jean-Jacques Goldman.
Moi, je file un rencard.
Ah,
ceux qui n'ont plus rien.
C'est Coluche.
Sans idéologie, discours ou baratin.
Ça faisait Jean-Jacques Goldman au début.
Le grand soir.
Juste pour l'hiver. À manger et à boire.
Oui. Et du coup, le thème,
on n'a plus le droit.
C'est une soirée arrosée, et donc.
Le thème est l'abandon du principe du thème.
D'accord, c'est conceptuel.
Voilà.
Le thème, ce sont les humoristes dans le monde de la chanson, puisque c'est le rire.
Mais comme il y avait Patrick Sébastien. Ah bah oui, Bourville, Tanguy Bourville. Voilà, maintenant qu'on a du humoriste, ça y est.
Je me souviens plus du nom du bal perdu.
Ah oui, trop belle ça.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.
Moi, tout ce qui est avant 65, je peux.
Il y avait tant d'insouciance.
Passé 65, je suis largué. Dans leurs
gestes Morgane, un point. Leïla, un point. Daniel, un. Tanguy,
ah,
un. Jérémy,
tu donnes des points à tout le monde alors que.
Bah,
il n'a pas répondu,
si.
Leïla non plus.
Tu plaisantes?
Si, Leïla, les Enfoirés.
Si, les Enfoirés.
T'as fou quoi, Daniel?
Daniel, il a un point.
Non, Daniel, rien. Non, t'as raison.
Daniel, c'est pour l'ancienneté.
Il a un point.
C'est Daniel Morin.
C'est statutaire quoi. Morgane.
Ouais.
Elise Moon.
Non.
Daniel.
Gad Elmaleh.
La Rousseau.
Gad Elmaleh.
Joli.
Ah oui, on prend le Garou. Paris.
Toulouse. Ah oui, nos Garou.
Un torrent de cailloux roule dans ton
accent. Eh, de la voix, hein.
Gad Elmaleh qui sera le 31 juillet au festival de Ramatuelle. Attention, qui chante?
Jérémy,
ouais,
c'est moi.
Ouais.
Pour que l'on finisse.
C'est Julien Doré, j'allais dire, c'était Julien Doré.
Je reconnais mon.
Écoutez.
Où est le ministre? On est tous un peu fléministe.
Ça aurait été drôle que tu te reconnaisses pas.
C'est vrai que c'est entre Julien Doré et François Mitterrand.
Ouais,
François Doré.
Attention, c'est le super. C'est le super banco.
C'était dur aujourd'hui.
Et je vais vous dire, c'est super difficile. C'est super difficile. Humoriste qui chante, ça rapporte 4 points et la victoire.
On peut avoir l'année.
Français?
J'ai connu des tas de filles,
Leïla,
des tas de garçons aussi.
Brel,
mais quand
non.
J'ai connu Camille, oh, quel trouble dans ma vie.
Daniel, Camille, Francis Blanche,
non.
Popek, Popek,
Fernand Renaud, Fernand Renaud,
Fernand Renaud,
non.
Écoutez,
Jean-Yann.
Ah oui.
Ouais. Jean-Yann là-bas.
Camille est assez spéciale.
Jean-Yann, Leïla, Jean-Yann.
Bien joué, Michel Bougenat qui gagne le blind test.
T'as juste foutu en l'air mon jeu, quoi. C'est le principe du mec qui ne doit pas donner la réponse.
Michel.
T'as shooté la réponse. Bon.
Ah bon, il faut pas.
C'est la première fois qu'un invité gagne le blind test.
Michel Bougenat a gagné.
Bravo, Michel.
Bravo, Michel.
J'ai entendu trouver le mec, j'ai répondu.
Oui, mais t'es pas censé être là, toi.
Ah bon, je suis pas là.
Avec Nagui.
Michel Bougenat est notre invité pour parler de ce festival de Rabatuel des nuits classiques qui se tiendront du 27 juillet au 11 août. Parlons déjà, est-ce que tout va bien, Michel? Est-ce que
tout va très bien.
L'annonce depuis hier de la suppression du masque en extérieur est une bonne nouvelle pour vous, évidemment?
Magnifique. Et je pense que,
est-ce que le monde
pour
du
le festival, c'est très bien.
Est-ce que le monde, parce oui. que autant les stades de foot, non, mais est-ce que le monde du spectacle rentre dans cette catégorie ou pas?
Non, enfin, je veux dire, sauf quand on est en plein air. Maintenant, je pense qu'au théâtre à Ramatuel, je pense que le masque sera obligatoire parce qu'il va y avoir une grande concentration. D'ailleurs, je vous en supplie, on n'est pas loin de s'en sortir. Tenons le coup. Non, parce qu'évidemment, il y a plein de trucs sur les variants, on ne sait pas, machin, est-ce que ça va recommencer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on déconne...
On repart pour...
Non, vous avez raison. Ouais, c'est juste que vous avez dit « tenons le coup » et je me suis tenu le coup en regardant Jérémy. Ça, voilà, il y a une très bonne blague visuelle.
Okay. Alors, j'ai une autre expression, si vous voulez, mais ça, celle-là, vous ne pouvez pas la faire.
Ah, attention.
Elle est très souple.
Vous ne me connaissez pas.
Ah ben, j'aimerais quand même entendre par curiosité.
Le côté « t'es pas cap » avec Morgane, ça marche pas.
Si vous pensez l'avoir, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Non, mais il a raison, il ne faut pas lâcher maintenant.
Et si vous croyez que c'est une dame?
Parce que l'année dernière, quand on a tenu le festival de Ramatuel dans des conditions très très compliqué.
Avec le masque.
Avec le masque, avec le gel, avec tout ça. Et on a remarqué que au début, ça se passait plutôt bien. Et puis à un moment donné, quand ils ont à Saint-Tropez, donc pas loin de Ramatuel, ils ont commencé à tout fermer parce que c'était open bar et les gens disaient...
Non, il faut dire la vérité. C'est parti totalement en sucette parce que des restaurants, des terrasses, des plages faisaient la fête sans aucune précaution sanitaire, se pensant sûrement pour une espèce de jeunesse et de laisser aller au-dessus de n'importe quel virus, n'importe quelle pandémie. Et les premières personnes qui ont été victimes du Covid dans ces soirées-là étaient le personnel, les employés, les serveurs des restaurants qui sont tous tombés malades et les restaurants et les terrasses ont fermé.
Exactement. Et ça a impacté le festival qu'on avait tenu comme un festival de résistance l'année dernière parce qu'on était pratiquement les seuls à tenir. Donc c'est vrai que là tout va bien, on ouvre, tout est impeccable, mais moi je suis très très vigilant. Voilà, le drame de cette histoire, c'est que comme on ne maîtrise pas tout, il y a tellement de théories complotistes dans tous les sens, quoi. Tous les jours, je reçois des trucs de... Mais si je les suis, je me jette par la fenêtre.
Enfin, les théories complotistes ont toujours existé. C'est pas nouveau.
Ah non, mais
c'est peut-être accéléré avec
Internet. Mais avec des thèmes comme
Internet.
Ça, c'est vrai qu'elles se multiplient. Ouais.
C'est
mais
ça.
Ouais. Nagui, à ce point, tous les jours, il y a un truc... Il y a un mec qui
Michel.
Me dit, il y a un scientifique qui fait que les vaccins, ils ont fait exprès. Les autres, ils disent que ça sert à rien. Les autres, ils disent l'ARN, l'AD... J'ai lu un article...
Dans le
hier qu'on m'a envoyé, je remets le masque.
J'adore.
Tenez bon.
On ne laisserait pas.
Et quand je pense à ça, vous rendez compte? Moi, mon fils, il a 23 ans.
J'ai jamais vu.
Je ne connais pas son visage.
Je...
Et on me dit que c'est une fake news.
Et alors cet article, non, Michel...
entre le préservatif et le masque, vous rendez compte la vie?
Et Michel, cet article.
Ouais, non, mais j'ai lu un article.
Faut pas se tromper.
Avec un préservatif, il y a peu de chances d'avoir un enfant. Mais avec un masque, on peut le voir.
Oui, non, mais c'est pour sa vie à lui.
Ah oui,
je vais le frapper. Hein.
En fait.
Il y a déjà un invité qui l'a frappé ou pas?
Ah oui, plusieurs.
C'est vrai?
Ouais. Bon,
alors, je vais lui faire autre chose. Alors,
cet article.
Le titre est déchaîné.
Moi, j'en peux plus, je veux savoir ce
que j'ai lu ce matin. Qu'on m'a envoyé, c'est. Il faut être diplômé d'Harvard pour comprendre l'article qui est envoyé par des complotistes. Et ensuite, à la fin de l'article, théoriquement, on se suicide. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est dans un climat anxiogène. Je veux dire, moi, ça fait un an et demi pratiquement que je n'ai pas joué sur scène. J'en peux plus. je n'en peux plus.
Physiquement, ça vous manque? De ressentir le plaisir de monter sur des planches, d'être... Ouais,
j'exagère parce que j'ai joué le 19, à l'ouverture des théâtres, j'ai joué deux jours au Grand Théâtre d'Antibes. Mais bon, c'était deux fois, quoi. Bien sûr, ça me manque. Ça me manque, les gens... Moi, quand le Grand Ramatuel va ouvrir et que je vais présenter le premier soir, je pense que je ne vais pas présenter sur scène. Je vais descendre dans la salle, je vais les embrasser un par un. Ça va prendre deux jours.
On rappelle qu'il y a combien de personnes, d'ailleurs? 2500, oui, c'est en extérieur.
Non. À Ramatuel,
oui.
1200.
1200.
1200 quand on serre...
Les coussins.
Voilà. Quand on serre les coussins au maximum, quand on coupe les coussins en deux.
Donc là, ça sera forcément
comment
moins. Il y aura moins de personnes parce que j'imagine qu'il y a une distanciation.
Non, c'est open
bar.
Non. En plus, bon, nous, l'année dernière, par exemple, il y a eu des soirées où on avait quand même 700 personnes sur 1200. Il n'y a pas eu un, ni dans l'équipe, ni. Enfin, rien. Tout s'est bien passé.
Alors parlons du programme de cette année. Ça commence toujours par les nuits classiques. C'est une tradition, d'ailleurs, de démarrer comme ça.
Oui, Jacqueline Franjou, la présidente du festival, a tenu à maintenir ça. Et c'est Monsieur Petit Girard qui est le directeur artistique de ça. Moi, je lui ai amené cette année un spectacle avec Julie Depardieu et deux musiciennes sur Missia.
Missia, reine de Paris.
Ouais, c'est une femme incroyable. Et franchement, quand j'ai vu le spectacle, je savais pas qui c'était. Hein. Elle a inspiré Coco Chanel, Debussy, Francis Poulenc. Elle était elle-même pianiste.
Gabriel Fauré, Litz.
C'est incroyable. C'est une femme qui a compté, qui a été l'égérie de tellement de gens. Le spectacle est très très fort. Julie Depardieu est très très bien.
Alors ça va commencer par Bertrand Chamaillou le 27 juillet, le 28 juillet donc l'Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Laurent Petit-Gérard dont vous avez parlé pour du Mozart et du Mendelssohn. Misiacer, donc ça sera Reine de Paris le spectacle le 29 juillet, puis le 31 juillet démarrage du festival, cette fois-ci sous le thème du rire et de l'humour comme une sorte d'exutoire en commençant par Gad Elmaleh qui remonte sur scène.
Ouais. Gad commence le 31. C'est sûr que cette année, moi j'avais envie que ce soit très festif, très joyeux, très qu'on sorte un peu de ce climat anxiogène.
Alors Gad, c'est un nouveau spectacle, racontez.
Oui, que j'ai vu.
C'est d'ailleurs.
Tu l'as vu toi?
Non, mais d'accord. J'ai vu le titre.
Oui, c'est bien. C'est pas non, mal. Parce que j'imagine qu'il a dû le roder quelque part.
Oui, il l'a rodé.
Vous avez pu le voir, d'accord.
Je l'ai vu en rodage. Et bon, c'est Gad, quoi.
C'est-à-dire, c'est du stand-up, ce sont des personnages,
c'est du stand-up,
il
joue des personnages, il y a un moment très émouvant où il joue sa grand-mère et pour ceux qui connaissent Gad un peu, Gad est sur scène un virtuose, quoi. Et il est incroyablement habile, sur scène. C'est très étonnant, parmi les gens que j'ai vus, moi, arriver. Puisque je suis
non, mais en termes de talent, de chant, de danse, de jeu, de musicien, ouais. Sur scène, il a.
Il y a une seule personne que je connais, que j'ai rencontrée, que je connais pas assez, je regrette, qui a ce côté multiple, c'est Camille Lelouch, chez les filles. Que j'ai vu ses One Man Show. C'est impressionnant ce que cette fille est capable de faire. Et c'est marrant parce que je trouve qu'ils ont un...
Et vous avez cherché à la programmer cette année, ça n'a pas été possible?
Ça n'a pas pu se faire et j'espère qu'elle viendra l'année prochaine.
Le 1er août, rendez-vous avec Philippe Catherine en concert. Toujours une folie, une folie douce, mais une vraie
c'est
folie.
Fou. Oui,
une vraie
complètement,
folie, complètement. Mais génial. Philippe Catherine, le 2 août, ça sera La Maison du Loup, mise en scène par Tristan Petit-Girard avec Benoît Solès et... Amaury,
oui, Benoît Solès, c'est la même équipe qui avait fait La Machine de Turing, ils avaient eu énormément de Molière.
Formidable.
Et c'est quasi une avant-première. Parce que l'avantage de cette année, c'est qu'il y a plein de spectacles qui vont se jouer l'année prochaine. Comme on ouvre les théâtres maintenant, il y a beaucoup de théâtres qui s'ouvrent pas, notamment les théâtres privés, parce que les théâtres privés vont pas ouvrir en mai, vu que les touristes sont pas là. Enfin bon, c'est mieux de rester fermé, en gros. Surtout même à 40% de la jauge, c'est pas...
C'est pas rentable.
Ouais, c'est pas évident. Donc, on a la chance d'avoir des spectacles comme ça qui ont été très peu joués.
Fabrice Lucchini, également présent. Il y a aussi, je ne voulais pas l'oublier, Éric Métayer qui va faire son
40
de
personnages.
Fou. On va en parler dans quelques instants et jusqu'à midi et demi avec Michel Bougenat. On est ravis de vous accueillir.
C'est gentil, monsieur Nagui.
Sauf Morgane Gadignan qui est là. Vas-y, Morgane! que Morgane ne vous aime pas. Tenez, tenez le coup, Michel.
Non, Michel Bougenat, je vous aime pas. Enfin, si, le pire, c'est que je vous aime bien. On s'est déjà croisés, en plus, on a joué ensemble il n'y a pas longtemps, en février, à un festival d'humour de Saint-Etienne, et je passais sur scène juste après vous. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas filmé ce matin. Je raconterai aux gens que vous vous en rappeliez. Et après ce climax, j'aurais tellement voulu avoir une histoire rocambolesque à raconter, une anecdote sympa pour cette chronique, mais non. Ça tombait bien. Pourtant, vous avez même été très aimable. C'est pas malin, du coup, j'ai pas de petite vengeance à prendre. Moi, je fais ce métier pour avoir des anecdotes people à raconter. Nagui, il me donne rien. Que dalle, égal à lui-même, tous les jours, droit, professionnel. Et vas-y qu'on est amoureux de sa femme, et vas-y qu'on refuse de divorcer pour donner un peu de relief à mes histoires. Non mais, franchement, débarquer sur le plateau de Taratata, les poches pleines d'ecstasy, vous faire choper par les douanes volantes, c'est trop vous demander, quoi. L'égoïsme.
Un effort.
Pourtant, tu sais que dans ce milieu, quand tu trouves quelqu'un sympa et que t'as le malheur de le dire tout haut, il y a toujours quelqu'un pour te casser ton délire. Genre, j'aime beaucoup Danny Briand, je l'ai croisé une fois, il a été adorable, et là t'as un mec à l'autre bout de la pièce qui t'a chopé dans son sonar et qui débarque en courant. Danny Briand, sympa. Ma cousine, elle l'a eu dans son taxi, il a laissé que 70 euros de pourboire, donc sympa, c'est pas le mot, quoi. Alors qu'un illustre inconnu qui chiait dans la boîte à gants, mais ça passait à l'aise. Les gens sont moins tolérants avec nous, les stars. Enfin, avec vous, les stars. Enfin, bref. Donc, ce mec qui balance dans les soirées, jusqu'à maintenant, c'était moi. Et le truc, c'est que c'est un phénomène infini parce que tu es toujours le connard de quelqu'un. Et que je trouvais qu'avoir Michel Bougenat en connard, bah, c'était stylé. Mais non, vous avez été sympa. Vous m'avez félicité à la fin. Époque de merde. On peut plus se plaindre de rien. Mais je vais raconter quoi à mes enfants, moi, Michel? Quand quelqu'un dira Michel Bougenat, c'est un chouette type et moi, je serais comme une conne. Ben oui, voilà. Il a pas agressé de technicienne. Il a pas allumé une clope au restaurant. Même pas une petite histoire de boîte à gants qui déborde. Que dalle. Ah si, j'ai un vieux dos. Votre premier film, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Et qu'est-ce que vous avez fait à votre agent pour tourner dans un film avec un titre pareil? Franchement, si l'émission avait existé, vous auriez dû venir faire la promo le temps de prononcer le titre du film que Nagui pose une question et hop, c'est déjà Pâques. Aujourd'hui, heureusement, vous venez nous parler du festival de Ramatuelle. J'adore. Vous rendez compte que j'ai pas dit festival en ligne de Ramatuelle. Et c'est là où tu te rends compte que ça va mieux. Il y aura de la musique classique, du théâtre, de l'humour dans un décor de zinzin. Ça y est, c'est l'été. Un vrai été. Il y a même pas de vanne. Je suis juste heureuse. Rien que tu dis Ramatuelle, t'entends déjà les cigales. Ça me donne des envies de mauresque à 8h30 du mat et de dire, on attend que le soleil descende un peu avant d'aller en ville parce que là, ouh, ça tape. Oh, puis des aubergines. Des aubergines en tarte à midi. Des aubergines en caviar à l'apéro, en émoji après minuit. Des aubergines, des aubergines, des aubergines.
Encore des aubergines. Toujours des aubergines.
Et puis finir pour aller prendre un petit café sur la place du village au milieu des vieux pour surprendre une conversation qui dira que, Michel Bougenat, il a fait vraiment un super boulot avec le festival. Et moi, je pourrais enfin m'avancer, sortir de nulle part pour dire que j'ai rien à redire, fait chier.
Dans la boîte à gants. Merci, Morgane Galignan. Et puis, ce festival jusqu'au 11 août, avec en clôture Alain Souchon. Ça, c'est trop la classe.
Ça fait des années que je me bats pour qu'il vienne. Laurent Voulzy était venu deux fois.
Francis Cabrel est venu aussi.
Francis
toute la nouvelle
Cabrel,
génération.
C'est de haute lutte. Hein. C'est de, que des générations de jeunes. Pas des mecs vieux comme vous qui ont des têtes d'abrutis. Alors, non, avec le masque. Hein, sans le masque, vous êtes très beau.
Garde le masque.
Donc, Alain Souchon, ça fait des années que je me bats. Je suis très très content qu'il vienne. Je suis très content qu'il fasse la clôture.
Il fait une clôture et tout?
Il fait la clôture. Ouais, parce que
sympa.
Ça empêche les abrutis de rentrer.
On va rester dehors.
Il y a du Fedo également. Il y a.
C'est Muriel Mayette-Holtz qui viendra présenter justement la dernière création du théâtre de Nice. Oui,
du théâtre national de Nice.
Il y a Père et Manque de Christian Vadim qui joue à domicile, Christian, finalement, parce qu'il
est
un tropézien devant l'Éternel. Pièce qu'il met en scène et dans laquelle il joue également. Je l'ai dit, Lucchini, Eric Métayer, avec cette prouesse d'avoir autant de personnages sur scène, une quarantaine de personnages. Benjamin Biolay en concert, Philippe Catherine en concert. Comment équilibrer d'ailleurs une programmation d'un festival entre humour, pièces de théâtre au sens propre du terme, concert, stand-up aussi, humoriste seul. Est-ce que c'est un malicieux mélange ou faites en fonction des plannings?
D'autant que, pardon Michel,
il n'y a pas eu de spectacle pendant un an, donc comment aussi faire une programmation sans
ça
savoir...
Ça a été un des problèmes, mais ça dépend des années, ça dépend aussi de ce qu'on peut ressentir... Quand je vais presque tout voir en fonction. Bon, j'ai un autre métier à côté, un vrai métier. Je suis pas directeur artistique toute l'année, mais j'essaye de trouver les comment dire, de laisser aller moi mes émotions par rapport à tout ce qui se passe et de trouver les gens qui correspondent à ça. Voilà. Et par exemple, Benjamin Biolay, pendant le confinement, il a fait des choses formidables sur Instagram. Moi, je regardais ce qu'il faisait. Et je pouvais pas m'empêcher de penser au fait que c'était formidable qu'il vienne à Ramatuelle, justement après tout ça.
Sauf que j'imagine que quand vous avez commencé votre programmation, vous ne saviez pas dans quel état on serait en termes de
crise sanitaire. Non, mais on prenait le risque. Là, je dois vraiment saluer Jacqueline Franjoux parce que...
Saluons-la.
Elle est incroyable là-dessus. L'année dernière, elle me disait... Moi, je disais, mais Jacqueline, on le fera pas. Détends-toi, on le fera pas, on reste à la maison. Elle me disait, non, on va tout faire comme si on le faisait. Et puis si on le fait, on a gagné. Et elle avait raison.
Je rappelle d'ailleurs son livre, Un théâtre sous les étoiles, qu'elle a publié l'année dernière aux éditions du Cherche Midi.
C'est vrai que c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des années où il y a des spectacles qu'on les a pas ou on peut pas les avoir.
Donc ça veut dire, Michel, que vous programmez en fonction de vos goûts personnels. Vous ne vous basez pas sur ça a rencontré du succès à Paris.
Il m'est arrivé de prendre des spectacles que j'aimais pas, mais que je considérais que c'était important qu'ils soient à Ramatuelle parce qu'il faut.
Sur quels critères? Ou qui?
Les noms.
J'ai pas le don absolu de savoir ce qui est bien ou pas bien.
C'est le travail pourtant d'un directeur artistique. Il met sa patte dans sa programmation.
Oui, bien sûr. Non, je mets toujours ma patte. Mais quand je prends un spectacle forcément qui est pas forcément dans ma ligne artistique à moi, je considère que je dois le faire parce que c'est pas parce que je suis pas d'accord que c'est pas bien.
Mais c'est pas une soirée privée.
Voilà, exactement. C'est pas à la maison. Moi, j'aime rendre compte au public d'un certain éclectisme et d'un certain panorama comme ça qu'on pourrait avoir. C'est un tout petit festival qui a une renommée énorme.
Donc ça veut dire que ce panorama passe par des émotions. Vous vous dites, il faut du rire, il faut de la musique, il faut du classique, il faut du pop, il faut des larmes, il faut, vous avez...
Absolument. Absolument. Et le spectacle, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et si j'adapte la phrase de Laurent Terzieff qui disait au Molière, le théâtre, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et moi, j'adorais Laurent Terzieff. J'ai commencé dans son théâtre quand j'ai commencé à jouer tout seul. Et lui jouait des textes incroyables. Et moi, je jouais un petit juif tunisien qui raconte son histoire. Et il venait me voir et il était content qu'il y ait ces deux choses-là dans le théâtre. Moi, j'avais été très touché par ça.
Vous avez repris le flambeau de Jean-Claude Brialy. Est-ce que vous avez regardé les programmations faites dans le passé pour l'esprit Ramatuelle, l'esprit Brialy, ou est-ce que vous avez fait abstraction de tout en disant on y va et on part sur de nouvelles bases?
Non.
Ça fait combien de temps maintenant que vous le faites d'ailleurs?
Ça doit mettre 14e année, je crois. Quand on m'a demandé de prendre la direction, j'ai dit non d'abord. Après, j'ai été frappé par tout le monde, donc j'ai dit oui. J'aime pas qu'on me frappe. L'idée, c'était de garder l'héritage de Brialy et en même temps de montrer justement que l'ostracisme c'était une bêtise, que les chapelles c'était une bêtise, qu'il fallait tout mélanger, qu'il fallait être éclectique, qu'il fallait côtoyer du théâtre. Moi, on a eu Don Juan de Molière à côté de Michel Leeb.
Mais il faut du connu quand même. Il faut des noms quand même.
Le problème qu'on a à Ramatuelle, c'est que c'est un des seuls festivals privés. C'est-à-dire on a des subventions, mais relativement faibles par rapport au budget du festival. Donc
il y a une liste de sponsors qui fait l'ouverture de chaque soirée.
Exactement.
Grâce à Michel Bouygna.
Mon Dieu, que c'est long, tous les 15 minutes.
Ça c'est un boulot, ça aussi.
C'est essentiel de le faire, et c'est un boulot.
Et si on n'est pas, disons, on doit être chic et populaire. Ouais. Et si on remplit pas, on est mort. Moi, demain matin, on reçoit des subventions comme il y a dans d'autres festivals, à Vaison-la-Romaine ou ailleurs. Alors là, moi, je vais programmer dans tous les sens. Il y a des choses que je peux faire, des choses que je peux pas faire. Par exemple, je rêve de faire la danse contemporaine.
Il y a un devoir de résultat. Il y a un devoir de remplissage.
Je suis obligé. On a fait souvent des soirées aussi avec des jeunes humoristes. Non pas en tranche de saucisson, parce que je déteste qu'il y en ait 15 qui font 3 minutes, c'est ridicule. Donc, chaque fois, je programmais 4 ou 5 humoristes. Donc, ça va leur donner la possibilité de jouer pendant 20 minutes. Si je dis rire à Ramatuelle, on remplit. Parce que même si les gens ne savent pas qui c'est populaire. Mm-hmm. D'accord ? Si demain je dis on va faire venir de la danse contemporaine, je pense qu'on va remplir parce que la danse contemporaine, c'est très populaire. Mm-hmm. Ça pose des problèmes techniques énormes, notamment le sol. Ouais, parce qu'il faut avoir un plancher souple mm-hmm. pour les danseurs. Et ça, techniquement, c'est très compliqué à installer. Mais en tout cas, j'essaye toujours de... Là, on prend des risques. Je veux dire, il y a des spectacles... Quand je fais venir les chatouilles, par exemple, même si les chatouilles est un spectacle qui a une énorme réputation, je sais très bien qu'à Ramatuelle, au mois d'août, un spectacle sur une petite fille qui a été abusée par... Je sais que ça va être difficile, mais on va le faire.
Ça a été un succès bouleversant.
C'est parce qu'il y a Michel Bougenet à Ramatuelle, parce que quand vous dites la danse contemporaine, c'est populaire, c'est pas populaire, la danse contemporaine. C'est parce que c'est estampillé Ramatuelle et Michel Bougenet que les gens vont avoir confiance et vont venir. Parce qu'au départ...
Non, mais ça dépend de quelle danse contemporaine. Mais il y a des danses contemporaines qui sont...
S'il y a plusieurs cases, je vais pas m'en sortir.
Si, dans la danse contemporaine, il y a des choses beaucoup plus pointues et d'autres. Tu vois, du Crystal Pite, par exemple, c'est des tableaux fabuleux et même si tu connais rien à la danse,
Marion Motin, c'est
tu vas l'aimer parce que tout d'un coup il y a un travail de mouvement qui fait que c'est accessible et que tu te dis pas oh mon
Dieu.
Non,
puis les gens, moi j'étais surpris.
Si c'est validé par Michel Bougenet, c'est ça la question. On va venir.
Est-ce que vous avez été déçu par ça? Est-ce que vous avez pris des risques en disant c'est Ramatuelle, moi Michel Bougenet, je vous dis venez, vous allez apprécier, et d'un coup le public était pas
moi. J'ai un souvenir très émouvant de la première venue d'Abdelmalik à Ramatuelle. Je veux absolument qu'Abdelmalik vienne. Ça a été très compliqué.
Il était en première partie d'un spectacle, il n'était pas seul.
Non, il était seul. Soldat de plomb. Oui. Et il faisait un concert tout seul. Oui.
D'accord. J'avais un souvenir de lui en première partie d'un spectacle.
Il avait fait une apparition avec Juliette Gréco, mais sinon, il avait fait son spectacle tout seul. Okay. J'ai eu pique-pendre sur Abdelmalik. Ouais, mais c'est un mec des banlieues, il n'y aura pas de public à Ramatuelle pour ça, c'est 50 balles ou 55 balles la place, les gens ils vont pas payer, ils connaissent pas, c'est pas le même public. Je me suis battu dans la promo sur lui, j'ai pas arrêté de dire, ça a été dur, on n'a pas rempli complètement, mais les gens qui ont vu ce spectacle-là, je les ai gagnés pour 8 ans. Mmh. Parce qu'ils ont dit, il avait raison.
Et donc, à l'inverse, est-ce que vous avez été déçu au point où vous dites maintenant plus jamais je ne ferai ce genre de spectacle à Ramatuelle ou plus jamais tel artiste, mais enfin c'est peut-être pas un nom.
Le seul problème,
est-ce qu'il y a un style où vous dites maintenant j'irai plus là-dessus?
Je vais vous dire, mon cher Nagui,
s'il vous plaît.
Le gros problème aujourd'hui qu'on a avec les chanteurs, c'est pas les chanteurs, c'est l'entourage des chanteurs.
Ouais. Les managers.
Les managers et les ingénieurs du son. Les ingénieurs du son qui ont été formés, je sais pas, ils sont sourds ces mecs, ou alors ils aiment pas les textes.
Non, déjà on va pas dire les ingénieurs du son, on va dire ceux que vous avez rencontrés, Michel Bougenet, pour éviter de faire des amalgames, ce qui est quand même le mal du siècle. Donc on va dire ceux que
vous avez raison.
Voilà.
Mais les ingénieurs du son me cassent les bonbons.
Je crois que les Michel Bougenet aussi, mais bon.
J'écoute un disque. J'écoute un disque.
Ouais.
J'entends le texte. De la chanteuse ou du chanteur. Je vais à la répétition l'après-midi, j'entends rien. C'est de la bouillie. Et je dis, mais attends, on n'entend pas le texte. Je me fais massacrer. Donc, c'est un vrai... Ça, les managers...
Non, alors là, pardon.
Oui, quoi ?
Je suis désolé. Je vais aller plus loin même que Leïla pour... Le problème du live, pour faire de temps en temps des émissions où les gens chantent...
Dans votre émission, cher Nagui, on entend le texte.
On entend le texte parce qu'on y travaille, mais certains artistes et certaines personnes autour veulent chanter en étant noyés dans la musique. Donc, il y a des choix éditoriaux faits par des musiciens en disant, je veux que la batterie soit au-dessus de ma voix, c'est leur style, c'est leur volonté, je veux que la guitare soit plus forte à l'anglaise, comme ils disent. Donc c'est un choix.
Pourquoi ils écrivent des textes? Ils n'ont qu'à écrire que du yaourt.
Michel, c'est beaucoup mieux.
Ce que je veux dire, c'est ils font fracamala fatafala papa, et puis ils mettent de la batterie par
dessus. On ne peut pas lutter avec Michel.
Je vais me gêner, tiens. C'est un choix. Et après, il y a en effet des personnes qui sont meilleures que d'autres, surtout dans une situation de plein air où ce n'est pas simple, surtout dans une situation où j'imagine que vous avez aussi des contraintes de voisinage et tout ne peut pas être très fort. Et donc, il y a une balance, sans mauvais jeu de mots, à faire entre ce qui se passe dans la salle et ce qui est audible. Et puis, il y a le confort de l'artiste sur scène qui veut s'entendre.
Moi, si l'artiste il me dit « Michel, c'est ça que je veux », je lui fais « mais rajoute deux batteries ».
Si l'artiste se plaint qu'il change d'équipe, à ce moment-là qu'il change d'équipe.
Oui.
Mais en tout cas, le live...
Juliette Armanet, toute seule, avec un petit piano mécanique, c'était merveilleux.
Sûr, je suis d'accord. Je dis que le live ne ment pas. On ne peut pas tricher avec le live. Et on voit avec le live si un artiste est un véritable interprète, si la musique est bonne, si la chanson est bonne, si le texte est bon. C'est quelque chose qui est
ça
magique.
Pardonne pas, ouais.
Ça ne pardonne pas. Comme le théâtre. Le théâtre ne pardonne pas. Un bon acteur au cinéma n'est pas toujours un bon acteur au théâtre parce qu'il n'aura pas 25 prises à faire au théâtre.
Donc... C'est surtout l'inverse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que souvent, un très bon acteur au théâtre n'est pas forcément bon au cinéma.
Il projette trop ?
Parce que, oui. Parce qu'il joue pas.
Il salue. Il salue à chaque fin de prise. C'est hyper gênant.
Il est en dépression parce qu'il n'y a pas de public. Parce qu'au théâtre, il y a une mécanique qui se fait qu'on se règle avec le public. Ça veut dire, la balance, on la fait pendant la représentation et on trouve l'équilibre à ce moment-là, au niveau de l'émotion, au niveau du jeu. Ça. Au cinéma, c'est pas toujours le cas. Au cinéma, quand on vient de la scène et qu'on va au cinéma, au début, on se met à jouer.
Et j'ai malheureusement beaucoup de contre-exemples d'acteurs de cinéma ou d'actrices qui se retrouvent au théâtre et on se dit mais qu'est-ce que c'est quoi, et qui sont un tout petit peu à côté de la plaque. Mais c'est des acteurs
qui ont jamais fait de théâtre.
Peut-être, mais en
alors
tout cas,
pour moi, un acteur s'il a pas fait de théâtre, c'est mieux que
je mettais la notion
chez sa mère.
La notion du vivant est souvent une expérience qui.
Vous direz ça à Catherine Deneuve.
Qui est un.
Elle n'entend plus de toute façon.
Un coup près. Oh là là, arrêtez. Bon,
il y a toujours des exceptions.
Ah, voilà. Oui,
j'ai compris que j'avais pas le droit d'amalgamer rien du tout. Par exemple, si je dis je déteste le fromage, je vais me faire massacrer. Voilà. Parce qu'il y a des bons fromages.
Du 27 juillet au 11 août, le festival de Ramatuelle. Et voici le festival de Jérémy.
Oui. Oh. Alors, ambiance. Laïla Kaddour-Boudadi.
Oui.
On est présente si vous êtes là.
Présente.
Morgane Cadignan.
Présente.
Ok. Nagui.
Présent.
Son nom. Daniel Morin.
Présent.
Michel Boujna.
Présent.
Voilà. Donc je viens de faire l'appel du 18 juin.
Yes.
Grâce à ça, peut-être que dans 50 ans, j'aurai moi aussi mes avenues et mon porte-avions.
Ouais. D'autant que tu l'as fait à la radio.
Exactement. Si ça se trouve, le général de Gaulle, il habitait rue du Maréchal Leclerc. Du coup, la rue du général de Gaulle, c'était pas la rue du général de Gaulle, hein. On en apprend tous les jours dans cette émission. Hein, Daniel?
Oui.
Tiens, bon, parlons de vieilles choses. J'ai enfin vu le documentaire Netflix Formula One, pilote de leur destin. Alors, Formula One, pilote de leur destin, titre le plus chelou du monde. Après, taratata. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Une phrase, trois langues. Formula One, pilote de leur destin. Il y a que deux cas, hein. Il y a ça ou One, Two, Three, vive à l'Algérie. Voilà. Une phrase, trois langues. C'est une série documentaire en trois saisons qui parle donc de Formule 1.
Ouais.
Hein, et je parle de la voiture qui va vite, pas de l'hôtel pas cher. Tu fais pas trois saisons Netflix sur des chambres où il y a plus de lits que de mètres carrés dans la pioule. C'est fou. T'as quand même plus de place pour dormir dans une Formule 1 que dans un Formule 1. Et ils sont pas zinzin. Bon, j'ai mes combats. Après, c'est vrai que dans une Formule 1, t'as pas forcément le petit déj. Et ça, bon, c'est à prendre en compte. Ouais. Moi, j'ai regardé les trois saisons de Formula 1 alors que j'aime pas du tout ce sport. Tu me diras, j'ai regardé aussi The Queen's Gambit alors que je suis pas fan des gambas. Formula 1, j'ai tellement aimé que j'ai regardé en vitesse 1,5 pour finir plus rapidement. Et du coup, les mecs conduisent beaucoup plus vite, c'est encore plus impressionnant. Par contre, pour les changements de pneus, j'ai remis vitesse normale. Sinon, tu clignes des yeux, tu vois pas. Il est fou, ce métier de changeur de pneus de Formule 1. Et il a fini. C'est-à-dire qu'il part deux semaines à Monaco.
Tu fais très bien le changement de pneus.
Non mais attends, ils sont fous. Parce que moi, quand je vais faire changer un pneu au garage, le mec me dit de revenir 2 heures plus tard, il me facture 2 pneus pour l'équilibrage, plus un joint de culasse. Moi, je lui dis, joint de culasse, c'est quoi? C'est 400 euros, monsieur. Les changeurs de pneus dans Formula 1, ça va très vite, hein. C'est-à-dire que ça fait, t'es viré, Thierry. Quoi? Mais pourquoi? Mais t'es trop lent. Mais tu rigoles, j'ai fait, allez, ici, on fait, vous faites, oui, vous allez tellement vite. Thierry, ça fait 6 ans qui rate les anniversaires de ses gosses pour aller faire 6 ans de papa va travailler, il rentre dans 4 dodos, soyez sage, et il part 5 jours à Monaco faire. Il y a que moi que ça choque, hein, j'ai l'impression. Moi, ce que j'ai aimé dans ce Formula One, c'est que c'est centré sur les écuries du milieu de tableau. Et c'est hyper touchant de voir des mecs sauter de joie quand ils sont 6e. Ils sont là. C'est souvent des Français d'ailleurs, hein, esprit Coubertin. T'as fini 9e, Romain?
J'ai participé!
Et il est content. On apprend des choses surprenantes aussi. Genre parfois, les pilotes, ils attendent donc qu'on leur dise double dans le casque pour doubler. Ils attendent. C'est-à-dire que il y a l'ingénieur, il fait tu peux doubler dans la prochaine ligne droite. Le pilote fait OK et il double. Mais ils sont cons ou quoi? C'est-à-dire que le but, c'est de finir premier.
C'est peut-être pour ça qu'il arrive sixième.
Bah ouais, non, mais c'est-à-dire...
Quand j'aurais pu doubler depuis une heure. Ouais.
Le but, c'est de doubler le mec qui est devant. Alors, ils sont cons, mais ils sont d'un calme, parce qu'ils roulent à plus de 300 km/h dans une voiture qui fait un bruit de moustique vénère. Et ils répondent toujours hyper tranquillement au mec qui leur donne des instructions. Moi, à 300 km/h, tu m'entendrais te faire... tout le truc. Attendez, on me dit dans le casque qu'il y a une super musique qui arrive et qu'on me demande de terminer cette chronique. OK. Oh, j'ai pas de chute.
Elle est belle, merci, Jérémy Crédit.
Et Jérémy, on te retrouve ce soir pour l'appel du 18 juin à Toulouse et à Lille demain. Voilà.
Exactement.
Donc la musique, si j'ai bien compris, présente au festival de Ramatuelle, Benjamin Biolay, Philippe Catherine, Alain Souchon, ce sont les rendez-vous musicaux. Évidemment, les nuits classiques commenceront le 27 juillet avec Bertrand Chamaillou, l'Orchestre Philharmonique de Nice le 28 et le 29 juillet, Reine de Paris avec Julie Depardieu, Juliette Hurel, Hélène Couvert. La musique dans la vie de Michel Boujna. On va commencer par
70.
Les années 70.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Tu vois, même sur l'instru, elle te captive, quoi. Tu sais,
j'adore. Nina Simone, Feeling Good. Elle correspond à quoi, cette chanson, pour vous?
À un anniversaire... super, où tous mes copains m'avaient offert ce disque et avec chacun avait signé et j'étais bouleversé.
Et en 70, Rufus vous dit si tu veux, tu peux, Michel.
Oui, j'ai répété ça toute la nuit.
C'était au moment de payer l'édition, c'était.
Non, c'était parce que j'étais esclave sur un film qui s'appelait Les Camisards où je devais pas travailler du tout, je devais être en vacances.
Un film de René Alliot.
Oui, et où il y avait. Tous ceux qui allaient prendre le pouvoir dans le théâtre institutionnel à l'époque, et tous ceux qui l'avaient d'ailleurs, parce qu'il y avait Planchon, il y avait Gignoux, il y avait... Et j'étais fasciné par ce métier, je faisais du théâtre à l'école, mais moi je devais être médecin, voilà, j'adorais la médecine, hein, mais j'osais pas penser un jour que je ferais ce métier, parce que chez moi, un métier c'est fait pour vivre, c'est pour manger, pour protéger les enfants quand on en aura... C'était pas pour prendre des risques. Et Rufus m'a dit, j'ai dit, mais on peut vivre de ce métier. Il m'a fait, si tu veux, tu peux. Mmh. Et j'ai répété ça toute la nuit à mon camarade dans la chambre. Le lendemain, on prenait le train pour rentrer à l'école. Il m'a dit, si tu répètes encore une fois cette phrase, je vais te fracasser la tête contre le mur.
Tu lui as dit, si tu veux, tu peux.
Et j'ai dit, si tu veux, tu peux. Et je suis rentré à Paris en me disant, oui, peut-être que c'est possible de faire ce métier. Je vais... Voilà. Et ça, je rentrais en terminale et un an après, je suis allé 2 heures à la fac de médecine et j'ai quitté la fac et j'ai dit si je veux, je peux.
1980, vous écoutiez Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm
not sleepy and there's no place I'm going to. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes?
Qu'est-ce que c'est que ce film?
Si vous saviez. Comment je l'ai subi. Comment vous l'avez trouvé? Parce que.
C'est Morgane qui nous l'a raconté.
Quelle honte. On vient me voir, on me dit, est-ce que je jouais mon premier one-man show à l'époque au Lucernaire. Et on me dit, est-ce que tu veux faire le fils de Guy Bedos au cinéma? Je dis, ouais, je m'en foutais du cinéma. Hein. J'adorais ça comme spectateur, mais ça m'intéressait pas du tout. J'ai dit, fils de Guy Bedos, Guy Bedos, pour moi, c'est...
Le Graal?
Ouais. Un monument, ouais. Mmh. Surtout qu'à ce moment-là, il avait commencé à improviser. J'avais été dans les premières représentations de Guy Bedos où il commençait à improviser. J'ai dit oui tout de suite. Bon, et en fait, il n'y avait pas Guy Bedos dans le film.
Et vous étiez son père.
J'étais quand même un fils d'eux. Et pourtant, et Dieu sait si j'aimais cet acteur Robert Castel, quand je pense à ce film d'Yves Boisset sur le camping, sur le racisme.
Ah oui, non, non, c'était formidable. Dupont-la-Joie.
Dupont-la-Joie. Où Robert Castel était à tomber par terre. C'était un merveilleux acteur, mais souvent il s'est caricaturé lui-même, et dans ce film-là, encore plus. Voilà. Et c'est drôle parce que la fille qui jouait ma femme dans ce film, Lorraine Bracco, ouais, a été nommée aux Oscars bien des années plus tard pour Les Affranchis. Et c'était une Américaine qui vivait à Paris. Elle est repartie là-bas, elle est devenue comédienne. Elle joue la psychanalyste dans Les Sopranos. Et voilà, mais bon. Donc j'avais la tête qui s'enfonçait à l'intérieur de mon corps à la projection. Je me disais, même moi, j'espère que je ne l'ai pas vue. Et je voulais disparaître. Voilà, tellement ça n'avait rien à voir avec moi, cette histoire. Mais.
Oui, mais pardon, ça c'est le propre aussi des actrices et des acteurs. Ils ne sont pas maîtres de l'œuvre dans laquelle ils jouent.
Absolument.
C'est pour ça que montage après.
Ouais, il y a tout.
C'est pour ça que je tourne beaucoup moins, que je préfère essayer de faire mes films et de raconter les histoires que j'ai envie de raconter.
Et puis bon, il y a eu ce film, mais en parallèle, il y a eu votre premier one-man show, Albert, qui a été un véritable succès. Vous dites qu'en commençant à le jouer, en gros, je vais le jouer 20 fois, 30 fois, après j'arrête.
Ah ben, j'avais demandé... J'avais emprunté de l'argent à mes copains pour payer le théâtre pendant 15 jours. C'était à l'époque, c'était 1000 francs par jour. Donc j'avais trouvé des gens qui m'ont donné, à chaque fois, j'ai dit, tiens, pas 1000 balles pour une représentation.
Vos producteurs,
en fait. Ah ouais, des côtés que des copains. Parce qu'à l'époque, j'avais des copains qui avaient déjà fini leurs études ou qui bossaient, qui gagnaient de l'argent.
Mais c'était prête-moi de l'argent, je te le rends, ou c'était crois en moi, investis et deviens mécène.
Non, prête-moi de l'argent, je te le rends. Ne crois pas en moi. Moi, pendant des années, on m'a dit arrête.
C'est
arrête,
vrai.
Fais pas. Ben ouais. Première fois que je suis monté sur
scène.
C'est
qui on m'a dit. C'est pas...
Majoritairement ma famille et des copains. Moi, la première fois que je suis monté sur scène, on m'a dit fais tout ce que tu veux, mais pas ça. Quand j'ai passé des concours.
Ça va, votre famille.
Ben non, mais
parce qu'ils ont peur.
Ils ont peur pour moi. Les spectacles que j'ai fait avant, Albert.
Ils savaient en même temps que vous aimiez ça et que vous étiez heureux en le faisant aussi.
Ouais, jusqu'au jour où je me suis effondré en larmes parce que j'ai dit ça sert à rien de faire du théâtre s'il y a jamais personne dans la salle. J'ai quand même fait 8 spectacles dans la compagnie où j'étais et qui étaient 8 bides commerciaux. Artistiquement, non. On a fait des tentatives. On était fous. On nous a donné le Palace, vous voyez ? À l'époque, c'était un théâtre. C'était Pierre Laville qui dirigeait le Palace. On a fait un spectacle qui s'appelait Paris, c'est grand. Le principe, c'était qu'on baladait le public dans le théâtre, comme des touristes, et il y avait des accidents. Des immigrés, des putes, des vieux, des SDF, tout
des
ça.
Accidents, okay,
des accidents.
Accidents de la vie.
Oui, non, mais des choses qu'on ne voit pas quand on est touriste et qu'on est avec un guide touristique dans Paris. Mais on pouvait faire entrer que 15 spectateurs. Et on était 20 dans la troupe. Donc on était plus...
Normalement, il n'y a pas de spectacle quand il y a plus de personnes sur scène que dans la salle.
Et c'était délirant. Donc on faisait un travail de cinglé. Et dans ma famille, ils disaient, mais jamais il va pouvoir bouffer avec ça. Parce qu'une fois de plus, dans mon éducation, c'était d'abord, faut manger. Un métier, c'est fait pour gagner sa vie. Comment tu vas gagner ta vie? Bon, donc
c'est vrai aussi en même temps.
Mais bien sûr. Mais oui, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr, c'est important. Donc après, quand j'ai commencé à jouer seul sur scène et que en une semaine, c'était complet. Bon, ça faisait que 100 places, mais c'était le. Je sais pas comment raconter aux gens l'émotion, la surprise, à quel point c'est bouleversant. De tout d'un coup, en une semaine. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Hein. Rien que le bouche à oreille. Alors à partir de là...
Pourquoi ? Parce que vous êtes rentré dans les clous ? Parce que vous avez fait quelque chose de plus structuré, de moins délire ?
Je ne sais pas.
Qui répondait à quelque chose de...
Peut-être parce que j'ai fait ce que les enfants handicapés avec lesquels je travaillais à l'époque... ils m'ont montré le chemin. Ils faisaient leur spectacle à eux, et moi j'étais là pour leur permettre de le faire, mais j'écrivais pas les textes, c'était eux qui le faisaient, c'était bouleversant.
Et vous importez quoi ?
J'ai fait comme eux.
C'est-à-dire ?
Eh ben, j'ai fait de la fiction avec ma propre histoire. Eux, ils étaient traités de fous partout, ils étaient les Mongols.
Moqués, oui.
Ouais. ils ont fait des spectacles magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'était magnifique ce que faisaient ces enfants. J'étais jaloux. Moi, les spectacles que je montais avec la compagnie marchaient pas, et eux, il y avait tout le monde qui venait.
Donc la leçon, c'était quoi? De faire dans l'autodérision, dans de se baser sur votre propre vie pour faire rire les autres et se moquer de soi?
Je sais même pas. C'était juste raconter. C'était juste jouer et raconter. Mais de la fiction à partir de la vraie vie. Mmh. Je sais pas comment.
Non, j'ai compris.
Il y a un mec qui dit, il n'y a de vérité en art que dans le mensonge. Plus on raconte, plus on invente, plus on est sincère. Et ça a fonctionné, à ma grande surprise. De toutes les façons, toute ma vie, que ce soit les échecs ou les succès que j'ai eu dans ma vie, à chaque fois j'étais surpris. Parce que je sais pas, je suis pas un homme de marketing. Moi, je sais pas fabriquer pour plaire. Je sais que juste raconter ce qui me touche, ce qui me fait rire, ce qui me bouleverse, ce qui me fait mal. Je sais pas faire autrement.
On en arrive à 1986.
Suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps.
Bah, des paroles qui résument bien ce que vous venez de dire, justement. Télé maquette.
Absolument.
Et nous sommes en 86, Leïla.
Et vous remportez le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre performance dans Trois hommes et un couffin, qui est un film qui, quand il repasse à la télévision, continue d'emmagasiner autant de téléspectateurs.
Et qui n'était pas fait pour être un succès au
début. Et qui n'était pas fait pour être un succès, là encore. C'est une histoire de... Quoi, c'est un succès? C'est une méprise, encore, ce succès-là?
On dit souvent que le succès, c'est une méprise, mais je pense que le film est arrivé à un bon moment.
Il y a eu un bouche-à-oreille formidable.
Oui, les gens ont été touchés par cette histoire des hommes qui s'occupaient de ce bébé. Il y avait une vraie raison très très profonde chez Colin Serrault de faire ce film. Il y avait une vraie raison chez les acteurs de le jouer.
Voilà. C'était quoi votre vraie raison à vous et celle de Colin Serrault?
La grossesse des hommes.
La couvade.
La féminité des hommes.
Ah oui.
Et de l'assumer. De l'assumer sincèrement. Et Colin est une vraie militante de ce point de vue-là. Mmh. Donc... moi, quand j'ai eu César, ça m'a fait plaisir. J'ai toujours regretté que les deux autres ne l'avaient pas avec moi. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il arrive qu'on donne des Césars à plusieurs personnes en même temps. À l'époque, ça se faisait pas. Et je pense à Roland Giraud parce que si des trois acteurs, parce que c'est une histoire incroyable.
André Dussolier, vous et Roland Giraud.
Parce que moi, je dois pas faire ce film. Moi, je suis en train de tourner un autre film très particulier. Comme d'habitude. quelqu'un me dit avec qui tu as envie de tourner, puisque tu fais pratiquement pas de cinéma. Je dis, moi, il y a une femme que j'adore, c'est Colin Serrault. On m'appelle, à ce moment-là, on me dit, il y a Colin Serrault au téléphone. Je dis, tu te fous de ma gueule, tu m'as entendu. Non, c'était vrai, c'était elle. Et elle me dit, voilà, je cherchais. J'ai dit, madame, l'annuaire, je le tourne avec vous, et j'ai raccroché. Et je suis monté à Paris, j'ai dit d'accord, j'avais pas lu le scénario. C'était Daniel Auteuil qui devait faire ce film. C'est pas moi. Et Daniel Auteuil, il a entendu parler que Coluche faisait pas Manon des Sources. Il s'est habillé en Hugolin, il est allé voir Claude Berry, il a défoncé la porte, et Claude Berry, vraiment, c'est comme ça que c'est passé. De force, il est rentré, il a joué Hugolin dans le bureau, et Claude Berry l'a engagé. Il a appelé Colin Serrault, il lui a dit, excuse-moi Colin, je fais pas, il a fait un film avec elle après qui est formidable, qui remue les Juliettes, mais il dit, je fais pas le couffin. Elle s'est retrouvée. À ce moment-là, elle repousse le film. C'était Guy Bedos qui devait jouer le rôle de Roland Giraud. Et Guy Bedos, parce que Daniel ne peut pas faire le film est repoussé, Guy Bedos a une tournée de 100 dates à faire, il peut pas faire le couffin, donc il annule. Donc je me retrouve seul avec Colin. Et on cherche des acteurs. Moi, j'habite dans le même immeuble qu'André Dussolier. Bon, lui, il a un très bel appartement.
Au dernier étage.
Ouais. Moi, j'ai un appartement de merde qui donne sur l'avenue du Général Leclerc. Chaque fois qu'il y a un camion qui passe, mon lit bouge de 2 mètres. Mais je vais voir André, j'ai dit, putain, lis le scénario, je te jure, c'est une bonne idée. C'est une belle histoire, c'est touchant, machin. Et puis on tombe sur Roland. Mais Roland a été le seul, et je pense à lui parce que je le vois pas en ce moment, pendant tout le tournage, Roland disait, vous allez voir, ce film-là, il va bouleverser les gens. Mais je disais, mais bon, il me dit, tu vas voir, on va faire des millions d'entrées. J'ai dit, arrête la hachiche, prends autre chose, prends du Doliprane, parce que là, tu vas mal.
mille.
Et ça a été. Je sais que je suis long quand je vous raconte cette histoire, mais c'est tellement. C'est, il s'est passé.
En tout cas, on y est.
Je vais vous, je vais vous dire autre chose que j'ai jamais dit.
Ah bah non.
Je vous jure.
Okay.
Je tourne le film donc avec Myriam Boyer, un film de John Berry qui s'appelle Voyage à Paimpol. Je finis le tournage deux jours avant de commencer le couffin. Je prends un coup de crosse de fusil, en français, dans les couilles, en, si on est bien tenu, dans les parties. Mm. Je rentre chez moi, en j'ai très très mal.
En fauteuil.
Et puis ça passe, la douleur. Je rentre chez moi, mon père était médecin, à 2h du matin, je me tords de douleur, j'appelle mon père vient me voir, il me fait, allez, à la clinique, t'as une torsion du...
Du truc,
d'un des deux, ouais.
Du métatarse.
D'une des deux.
Du métatarse.
On m'opère, et donc, je commence à tourner le film le lendemain de l'opération. Théoriquement, tu restes une semaine à l'hôpital.
Ouais.
Je suis allongé sur une civière, entre chaque prise, il y a des médecins qui me surveillent. Colline Serrault répète les scènes à ma place, elle me montre ce qu'il faut faire. Dès qu'on doit tourner, je me lève, je joue, et on me remet dans la civière.
On fait les sutures.
Et qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je porte, moi, à ce moment-là pour, après l'opération.
Une seule couille.
Des couches, surtout. Je porte des couches. Et dans ce film, je change les couches du bébé. Et deux minutes après, il y a les infirmiers qui arrivent pour changer les miennes. Je n'ai pratiquement jamais raconté cette
histoire. C'est un signe.
Si vous revoyez le film, vous verrez que je marche en canard tout le temps. Et pourquoi je marche en canard?
Non, c'est pas ça, moi.
C'est pas...
Non.
Parce que j'avais fait popo dans ma couille.
On me donne un César parce que j'ai eu mal au cou. Moi, j'ai trouvé ça. Vous voyez, on m'aurait donné un César pour le nombril du monde où j'ai fait un travail de dingue. Mais là, j'ai juste eu mal au cou. Je marche en canard.
Il y a un truc dans sa démarche qui nous a touchés.
Voilà. Alors, évidemment, j'ai trouvé ça un peu injuste.
Emmanuel Légrier est en ligne. Bonjour Emmanuel et merci pour votre patience. Vous êtes bonjour, vous êtes directeur de recherche en sciences politiques au CNRS.
Ah oui, ça change l'ambiance.
Ça change l'ambiance. Ah bah on va passer à un niveau supérieur là.
Tout va bien chez vous.
Vous êtes à Montpellier et vous êtes l'auteur de Culture et Métropole avec Philippe Théier aux éditions Autrement. Et à venir en novembre prochain, Festival Territoire et Société aux éditions Flammarion. Alors justement, Festival Territoire et Société, quand on parle du Festival de Ramatuelle, les festivals en général, est-ce que c'est une aubaine pour une région, ça met les projecteurs sur une région, ça attire du monde pour les hôtels, les restaurants, les taxis et tous les métiers.
Ben oui, et de plus en plus, je dirais. Parce que avant, le modèle du festival d'été, c'était un modèle où l'équipe technique débarquait une semaine avant, repartait une semaine après, et puis à l'année prochaine. Et là, de plus en plus, les équipes techniques, les équipes administratives des festivals sont locales. Puis un deuxième phénomène aussi, c'est que les touristes qui sont attirés par les festivals ou dont la fidélité à un territoire se fait grâce à un festival, va de pair avec le fait que pour beaucoup de gens qui habitent les territoires, les environnements, ils sont un peu touristes chez eux. C'est ce qu'on observe, c'est que plus il y a de festivals, plus les audiences sont régionales.
Est-ce qu'il y a vraiment un impact, par exemple, on repense à Arsène Lupin, Étretat, est-ce que le tourisme a été relancé grâce à la série? Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que certaines régions ou villes participent au financement de production ou de tournage.
Ah ben absolument, oui. Alors là, c'est très clair dans la stratégie de certaines villes, je pense à Barcelone en particulier, sur le roman, et en particulier sur le roman policier, il y a des itinéraires qui sont entièrement créés sur ces idées-là. Ça, c'est plutôt la culture, c'est pas forcément les festivals. Et puis, ça pose quelquefois même des problèmes. Hein. Certaines villes se sentent assaillies par les touristes. Certains festivals réfléchissent au fait de diminuer les jauges pour que les conditions, la qualité de la participation au festival ne soit pas entachée par l'excès de monde. Donc c'est le succès, quelquefois, ça doit se gérer plus que s'accueillir comme ça.
Oui, et puis à l'inverse, j'imagine que des villes pensent ou réfléchissent pour relancer une économie ou une activité à créer leur festival. À ce moment-là, arrive l'embouteillage en termes de calendrier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tombe en même temps qu'un autre sur le même genre de créneau dans la région.
Ah oui, exactement. Il y a des villes où les responsables de festivals se font la guerre en permanence pour obtenir ici un jour, ici l'autre. déborder l'un sur l'autre, se faire compétition sur à peu près les mêmes audiences. Donc effectivement, des problèmes de régulation, notamment l'été, mais pas seulement l'été.
C'est une qualité et un talent français, les festivals estivales, ou il y en a un peu partout ?
Non, il y en a un peu partout. Ce qu'on appelle la festivalisation, c'est vrai que ça s'est particulièrement développé en France. On a dû passer depuis la création du festival de Ramatuelle jusqu'à aujourd'hui de 600 festivals à 6000 à peu près. Et dire que vraiment c'est phénoménal. Mais évidemment, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne sont des pays de festivals comme vous pouvez l'imaginer.
Merci beaucoup Emmanuel Négrier. Je rappelle le livre à venir en novembre prochain, Festival Territoire et Société aux éditions Flammarion. Bonne journée et bon festival d'été Emmanuel, à bientôt.
Merci.
Tanguy Pastureau, de quoi allez-vous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler de TikTok, l'appli à la con des jeunes morveux qui pensent que la vie c'est danser, alors que non, la vie c'est être digne.
Avec Leïla Camerounais, Morgane Guérignan, Jérémy Tadmé, Laurent Guy-Pastureau, Daniel Morin et notre invité, monsieur Michel Bougenat. Le festival de Ramatuelle démarre donc. Je vais revoir le film sans blaguer.
Ouais,
je vais revoir Trois hommes et un couffin. Démarre donc le 27 juillet par les nuits classiques, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juillet. Ce jeudi-là avec Julie Depardieu pour Reine de Paris. Et puis ensuite, à partir du 31, c'est le festival où le rire, le théâtre et le jeu prennent, et la musique aussi prennent leur place avec, entre autres, Gad Elmaleh, Philippe Catherine, Tristan Petit-Gérard, pardon, pour la mise en scène de la Maison du Loup avec Benoît Solès, signé Benoît Solès aussi, le concert de Benjamin Biolay, le seul en scène, je l'ai dit, de Gad Elmaleh, mais également celui d'Éric Métayer avec une performance poétique, je sais pas comment la définir cette.
Ah mais il est fou, mais il est extraordinaire. Moi, je suis un fan absolu de Éric Métayer.
Et puis physiquement, ça doit être éprouvant aussi de jouer autant de personnages en aussi peu de temps. Fabrice Uchini pour Les Écrivains parlent d'argent sur scène également. Et puis vous finirez avec Alain Souchon le 11 août. À part la météo, quel est le souci maintenant quand on fait un festival en plein air ?
Les moustiques.
Le vent.
Il n'y a pas de moustiques. Les moustiques, ils applaudissent. ils s'assoient dans un coin, ils écoutent. Le premier qui bouge, il met une claque. La météo, c'est tout. Et le mistral, le vent. Parce que c'est très dangereux pour les décors. On a failli avoir un accident une fois. Et depuis ce jour-là, j'ai eu une frayeur terrible.
Avec le vent qui a fait tomber un décor ?
Oui. Donc maintenant, on a renforcé la sécurité là-dessus. D'ailleurs, on a renforcé la sécurité sur tout, à Ramatuelle, sur tout.
Et alors, vous vous êtes posé la question de jouer l'avare de Molière que vous allez interpréter en janvier au Théâtre des Variétés.
On reprend le 15 janvier 2022, le jour de la naissance de Molière. Ce jour-là, Molière aura 400 ans, c'est rigolo.
Il est pas mort. Non,
oui, bien sûr, on s'est posé la question. Hein, 400 ans.
Ah oui.
C'est dingue, hein.
Enchaîne, Michel, enchaîne.
Pardon, je suis désolé. Mais j'oublie qu'on est à la radio et qu'on a un temps limité. Moi, je pense qu'on est à la maison et qu'on est jeune.
Comment vous autorisez, vous l'avez déjà fait, comment vous autorisez ou pas de vous autoprogrammer?
Je déteste m'autoprogrammer. C'est très compliqué. Mais j'étais tranquille, j'étais rassuré, un peu triste et rassuré qu'on puisse pas jouer l'avare à Ramatuelle parce que le décor est tellement monumental que c'était pas possible de l'amener. Triste aussi parce que c'est vrai que vraisemblablement c'est un des plus beaux moments de ma vie que de jouer ce personnage que je connaissais pas avant de l'avoir travaillé, que je connaissais pas vraiment. Parce qu'il est bouleversant cet homme.
Vous l'avez jamais joué ?
Non, j'avais jamais joué. J'avais joué Sganarelle dans Don Juan, plusieurs fois, au cinéma, au théâtre, tout ça. Mais ça, là, je savais pas, je comprenais pas qui était cet homme-là. Et je l'ai compris au fur et à mesure, parce que j'ai découvert derrière ce qu'il y avait aussi, que Molière était malade, qu'il était amoureux d'une jeune femme. Bon, il se trouve que cette femme, en plus, c'était la fille de sa femme.
Ah oui, compliqué.
Et qu'il écrit cette pièce, l'avarice, c'est un masque pour cacher son propre désespoir. Et c'est bouleversant de jouer ça.
Ça sera le 15 janvier, ouais, la reprise.
C'est un grand personnage,
de
vraiment.
Théâtre des variétés Harpagon, donc l'avare, joué par Michel Boujna. Voici Tanguy Passureau.
J'aime de plus en plus les réseaux sociaux. Alors en tant qu'observateur, hein, parce que j'adore perdre mon temps à regarder les gens perdre le leur. Bah, soyons honnêtes, les réseaux sociaux, c'est du temps perdu. Sur Facebook, il n'y a que des photos de gosses et d'animaux de compagnie que la maman ou le propriétaire trouve magnifiques, alors que non, parfois ils ont de ces gueules. Moi, une fois, j'ai écrit un ami superbe, il s'appelle comment ? Il a répondu Théo. J'ai écrit, c'est pas un nom bizarre pour un varan. Il a répondu, connard, c'est mon fils. C'est juste qu'on ne le lave pas pour ne pas gâcher d'eau et améliorer notre empreinte écologique. C'est pour ça qu'il a des plaques vertes. Sur Twitter, tout le monde s'insulte. L'ambiance est la même que dans l'escalator, si vous restez immobile sur le côté gauche. Instagram, c'est pire. Il y a les photos de stars. Même quand elles se shootent chez elles dans leur intérieur, ça rend mieux que vos vacances à vous. Dans l'appart le plus cher de tout, Airbnb. Parfois, vous voyez Céline Dion au Taj Mahal. Bah, en fait, elle est chez elle à Las Vegas, un F200. Il y a tellement de toilettes qu'elle peut lâcher une goutte d'urine par toilette. Et il y a un réseau social moins connu de nous, les vieux, c'est TikTok. C'est un truc d'ado. Hein, ces gens à duvet dont le dessus de la lèvre ressemble à de l'humus. Et là-dessus, il y a aussi des stars qui viennent solliciter les gosses. Ça revient à faire la sortie des écoles, mais sans avoir à passer au Franprix pour acheter des bonbons pèse. Alors citons M. Pokora, Gims, Aya Nakamura, David Guetta, donc étrangement aucun professionnel de la musique, mais aussi Marlène Schiappa, hein, qui fait des petits clips pour les régionales. Le dernier, elle a eu 64 j'aime. C'est nul. Même si vous postez une photo d'un mariage à la synagogue de Sarcelles sur la page Facebook du Hamas, vous en avez plus. Schiappa, son seul but, en fait, c'est d'être partout, parce qu'elle pense qu'elle est formidable. Elle est atteinte d'un grave syndrome de distorsion de la réalité. Donc TikTok, à titre personnel, j'y suis pas, hein, par peur d'être apprécié des ados. Après, s'ils viennent au spectacle, ça sent le Biactol et la chaussette, et on refuse de quitter la loge en criant « Ah purée, rendez-moi les vieux de France Inter que j'avais à la base !» Je sais juste que TikTok est chinois, l'appli date de 2016, elle a déjà 5 ans, c'est le seul machin chinois à avoir duré autant de temps. Et récemment, son fondateur, Zhang Yiming, a démissionné, officiellement pour, alors je cite son email interne, « rêvasser ». Voilà. Le type est 9e fortune du pays, ce qui est fort sur 1,4 milliard d'habitants. Autant 9e fortune d'Islande. C'est jouable. Ils sont 112, dont Björk qui a 111 personnes dans sa tête. Autant être dans le top 10 du brosouf chinois, c'est pas mal. Et là, ils plaquent tout pour rêvasser. Alors qu'un chinois, ça ne rêvasse pas, ça bosse. Vous envoyez des stars du reggae chinois qui en concert crient Yes, we fly so high, tandis que la foule hurle Vive les RTT, Ja Martin Aubry, Big Up les 35 heures. Non, non, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent. C'est grâce aux chinois qu'on a des smartphones. Et grâce aux Ouïghours qu'on a des vêtements. Alors, la raison réelle de la démission de Yiming, c'est qu'on l'a démissionné. Hein, la Chine, c'est la nation du lâcher-prise. On se laisse faire. Il y a un mec du parti qui vous dit « T'as pas envie de te suicider, là ?» Vous répondez « Non, non, ça va, j'ai prêté à un ami mes albums de Leonard Cohen. » Et il vous dit « Si, si, tu as envie de te suicider, avant de vous transpercer le cœur à l'arbalète. » Voilà. En tout cas, j'imagine que ça se passe ainsi, mais j'ai fait 7 fois le Puy du Fou, je suis peut-être un peu sous influence. Donc, en gros, maintenant, ceux qui gèrent TikTok, c'est le pouvoir chinois. Et ça, pour tout le monde, c'est OK. Si demain, Bachar al-Assad lance son réseau social ouvert aux morts, hein, puisqu'il a tué la moitié des gens du pays, tout le monde braillera. Mais pour le despote chinois, c'est open bar, vu que c'est lui qui a le porte-monnaie. Alors certes, quand on va sur TikTok, on ne ressent pas cette mainmise du pouvoir. Ce sont juste des vidéos de jeunes qui dansent sur des hits insipides. Il n'y en a pas un qui break sur la tête en hurlant qu'il le fait pour la mémoire de Mao Tse-Tung. Mais il y a d'autres soucis avec ce réseau social. Mon conseil, les jeunes, foutez-vous plutôt au lit à 21h avec un bouquin d'André Malraux. Le souci de TikTok, c'est qu'il impose un modèle de perfection physique après lequel les jeunes courent sans parvenir jamais à être aussi hot. Alors vous allez me dire, perfection physique, trou de balle. Mon neveu de 15 piges, qui est un immense geyser à sébum, est sur TikTok. Il fait pas rêver la gueuse à l'appareil dentaire. Il n'applique pas de filtre à sa face viciée dans les vidéos. Sauf qu'aux États-Unis, une utilisatrice de TikTok a découvert qu'un filtre lissait et amincissait son visage sans qu'elle l'ait demandé. Ce sont des potes qui l'ont dit « Hé bébé, t'es trop mignonne !» alors que son chat une heure avant lui avait lacéré le visage, hein, et que l'héroïne lui avait fait perdre 14 dents. Alors en fait, elle a découvert le sens du dialogue du gouvernement chinois. Ce que Xi Jinping, il te prend, il te bouscule, il fait ce qu'il veut. Alors l'abonné à TikTok a donc protesté, c'est-à-dire qu'elle a posté partout des emojis qui chouinent, hein, c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui. Hein, Ronsard de nos jours, il collerait un emoji fleur fanée et il dirait « Wesh, c'est un poème sur la beauté qui se flétrit, il est gros !» Alors ce qui a fait réagir TikTok aux États-Unis, ils ont supprimer le filtre automatique qui en Chine apparemment est en test, voilà. Et à terme, je pense que nos miroirs aussi seront connectés. Dans la salle de bain le matin, celui de Michel Houellebecq lui affichera la photo d'un top modèle caribéen de de 24 ans, hein, ce qui fait qu'il se mettra au reggaeton. Enfin, la grande librairie dira à François Bunel, elle est bouge. Donc, encore quoi, 9-10 ans de réalité, hein, et ensuite, il n'y aura plus que des filtres. On aura tous le visage lissé, aminci, rajeuni. Alain Duhamel, on lui demandera s'il n'est pas le fils de Justin Bieber. Du beau, enfin, à la place de nos tronches ravagées par la vie. Du beau, mais du flippant.
Merci, bravo, Tanguy Passio. Le festival de Ramatuelle, à partir de la fin juillet jusqu'au 11 août, ouais. Avec d'autres événements culturels. Maintenant, Leïla Kadour-Boutetti.
Que vient de demander à son éditeur la romancière à succès, une romancière américaine, Eileen Hildebrand?
D'arrêter d'éditer.
Non.
De retirer tous les ouvrages à cause de la quatrième de couverture.
On n'est pas loin de retirer quelque chose. Pas la photo.
Il y a une faute de frappe. Il y a un titre. Elle
veut
changer de titre.
C'est plus grave que ça.
Le texte.
Une partie du texte, oui. Qu'on censure. Elle a demandé qu'on censure son dernier livre. Pourquoi ? Parce que quelques phrases avaient déclenché les foudres des internautes. Voici l'extrait. Dans un passage, l'héroïne se revoit enfant à jouer dans le grenier avec son ami. Je cite. « Tu es en train de dire que l'on pourrait se cacher ici tout l'été ?» demande Viviane. « Comme Anne Frank ?» Cela les fait rire toutes les deux, mais est-ce vraiment drôle? Et Viviane est-elle si loin du compte? Voilà cet extrait qui n'est pas passé inaperçu. Sur Instagram, il y a eu plusieurs commentaires qui l'accusent d'antisémitisme et qui expliquent qu'ils sont dégoûtés par ce genre de remarques. L'autrice a d'abord répondu individuellement au début, hein, quand les messages commençaient à arriver. Et puis finalement, elle a posté un message collectif sur son profil en disant qu'elle s'excusait de tout cœur, qu'elle trouvait que c'était de mauvais goût, que c'était une hyperbole, que c'était un mauvais choix, que c'était offensant. Bon, auto-flagellation. Et donc, elle a demandé à son éditeur de supprimer le passage des versions digitales et ainsi que de toutes les prochaines impressions papier. Michel Boujna, est-ce que déjà l'autocensure reste la première des censures finalement? Est-ce que dans un texte que vous avez pu écrire pour le jouer sur scène, vous vous êtes dit, bah non, là il vaut mieux pas?
Oh ouais.
De peur de quoi?
Ce qui limite un artiste, c'est son talent. Plus c'est compliqué, plus il faut avoir de talent. Donc si on n'a pas assez de talent pour le faire, il vaut mieux fermer son camembert.
Mais là, dans ce cas-là, ouais. Par exemple, la référence à Anne Frank...
Là, c'est pas un problème de talent, là, c'est un problème de heurter...
Elle fait un choix qui heurte et elle décide tout d'un coup de rétro-pédaler. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, c'est mon texte...
Je pense fondamentalement qu'elle a tort.
De changer, de censurer.
Oui, ouais. Là-dessus, parce que c'est pas... Le problème, c'est que le climat aujourd'hui fait que... On va même s'auto-censurer sur des trucs qu'on devrait pas, quoi.
Ouais. On va trop loin.
On voit le mal partout.
Ouais, j'ai fait une mauvaise blague la dernière fois en écrivant pour mon prochain spectacle.
C'est quoi une mauvaise blague déjà? C'est une blague qui fait pas rire? C'est une blague qui offense?
Moi, ça m'a fait rire. Et quand j'ai raconté ça à un copain, il m'a dit mets pas ça. Parce que en fait, tout est parti d'une visite dans un grand magasin, une grande surface où je voulais acheter un parasol. Et en prévision parce que le mien est cassé.
On sait jamais, il peut faire beau.
Il peut faire beau à un moment
j'adore
donné.
J'adore ces précisions. Le mien est cassé.
Et voilà. Oui, et le gars me dit, prenez celui-là, c'est le meilleur. Je fais, pourquoi? Il me fait, parce que c'est un parasol déporté. Et je lui dis, foutez de ma gueule. Déporté? C'est parce que c'est moi que vous dites déporté?
On pourrait se dire que c'est drôle.
Non, ça va. Ouais. Ça passe. Mais c'est après. C'est après, quand j'ai écrit la suite, en me disant, ah monsieur, vous faites tout le temps des blagues, vous. Ouais, c'est rigolo et tout ça. Hein. Vous êtes vraiment, même dans le magasin, vous faites rire. C'est marrant, vous êtes au four et au moulin. Non. Je lui dis non, vous insistez. Je suis au moulin et au moulin. Je bouge pas du moulin, moi. Je vais jamais au four. Et alors quand j'ai écrit ça, évidemment, j'ai un copain qui m'a dit non, ça risque d'être dangereux. Et à partir de là, j'ai dit tiens, je vais la garder. Je vais rajouter un truc sur les Arabes. Par exemple, Mouloud et Rachid sont sur le toit d'un immeuble. Qui est-ce qui saute en premier? L'immeuble. Après, je vais faire un truc sur les homosexuels. Sur le et à la fin de cette partie du spectacle, je vais dire au public, en principe, le théâtre est vide. En principe, tout le monde sera sorti.
En ayant tapé dans tous les sens sur tout le monde.
Exactement. Donc la question, c'est comment on peut le faire?
Ouais, mais est-ce qu'il faut s'excuser d'une vanne aussi en se disant je vais rééquilibrer rapidement en allant de l'autre côté, ou est-ce que vous pouvez dire aussi on ne va pas m'accuser étant donné ma propre religion d'antisémitisme, donc je peux me permettre de faire ce genre de vanne.
Ouais, c'est compliqué.
Et à ce moment-là, chacun ne fera des vannes que sur sa propre chapelle, communauté.
Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont généré 250 millions de milliards de gens qui parlent dans tous les sens. Et tout est possible. Non, mais
ils ont toujours parlé, sauf que avant, ça restait au bar du commerce. Ça ne sortait pas du troquet. Maintenant, c'est étalé.
Exactement. Et je pense que c'est une période difficile. Mais c'est ce que je disais dans mon précédent spectacle. Je veux dire, on peut rire de tout et pas. Des proches disaient pas avec n'importe qui, c'est vrai. Et moi, je rajoute pas n'importe comment. Si on y arrive, il faut trouver le chemin. Faut trouver. Alors,
Alphonse Allais disait que pour avoir une bonne blague, il faut être trois. Il y a celui qui la raconte, celui qui en rit et celui qui la comprend pas. Mmh. Et qu'à ce moment-là, ça devient une bonne blague.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est plus dans l'air du temps.
Ça questionne la liberté d'expression aussi, finalement. Parce qu'on parle toujours du rire comme quelque chose d'à part.
Est-ce que la liberté d'expression est de faire une vanne sur un parasol déporté ou pas?
Mais on en parle beaucoup, par exemple, avec la jeune Mila en ce moment. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a...
C'est plus de l'humour, là.
Non, mais après, l'humour, ça reste de l'expression, par ailleurs. C'est pas parce que ça suscite le rire que c'est finalement de dire ce qu'on a envie de dire, en fait. Et c'est assumer éventuellement les conséquences.
Il y a une chose qui est sûre, en tout cas. Ouais. C'est que quand vous riez de vous,
c'est plus
vous
simple.
Le faites beaucoup mieux que quand vous riez des autres. Et
vous êtes sûr de faire mal à personne, d'autre que vous.
Absolument. Mais c'est à la fois légitime et c'est en général beaucoup plus fin et beaucoup plus juste quand on se moque de nous-mêmes. Mmh. Donc, si tout le monde se moque de tout le monde, on pourra rire de tout.
Vous allez garder cette blague?
À le déporter?
Déporter et Moulin.
Le parasol déporté
et le Moulin.
C'est le titre du spectacle.
Oui, je pense que je vais faire un truc là-dessus.
Ouais. Et d'ailleurs, la première aura lieu au magasin Truffaut, voilà. De la ville de Courcelles. Voici Daniel Morin.
Jérémy Crédville l'a mentionné avec toute la désinvolture qui caractérise les nouvelles générations irrespectueuses de la grande histoire qui a sauvé nos petites démocraties. Aujourd'hui, en effet, nous célébrons l'appel du 18 juin, l'appel à la résistance contre l'oppresseur. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation a changé? Non, non, nous sommes toujours en guerre contre un ennemi aussi sournois qu'implacable. Et aujourd'hui, c'est le bonheur. Oui, parfaitement, le bonheur, ce principe qui rend idiot celui qui en est frappé et idiote celle qui se vautre dedans. On ne le voit pas venir, le bonheur, non, il est rampant. Hier, j'ai parlé du bonheur si important que défend si bien Patrick Sébastien. Ok, je me suis trompé. J'ai dit de la merde. Le bonheur, c'est l'ennemi. À quoi ça sert d'être heureux avec la quatrième vague qui nous attend en septembre et son fameux variant du Monoï? Non! Soyons malheureux et misérables dès aujourd'hui. Comme ça, nous ne serons pas pris en traître. Annulons toute festivité. Ça, il l'aurait bien compris, Charles de Gaulle. Il y aurait eu le second appel du 18 juin s'il avait été là. Française, Français, l'oppresseur joyeux est à nos portes. J'en appelle à la résistance. Oui, à la résistance immédiate et sans merci pour chasser de nos villes et de nos vies le bonheur illusoire des jours meilleurs. Annulons le cinéma qui nous fait rêver et perdre le sens des réalités. Annulons les émissions de télé qui nous mentent et ne fournissent même pas des karaokés complets. Annulons les festivals. Oui, les festivals, lieux de rencontre et souvent d'orgies pour quelques bobos gauchos parigots comme à Ramatuelle. Ramatuelle, rendez-vous de débauche organisé par le fantaisiste pornographe qui parle tout le temps, Michel Boujna. Oui, Boujna, qui va nous dire le bonheur, c'est pas ça ou ça. C'est ça et ça, immonde cumulard. Ramatuelle, rendez-vous lors duquel on rit, on s'émeut. Deux sentiments de déviance qu'il nous faut bannir. L'avenir est sombre, enveloppons-nous de gris et de noir pour nous y couler. Le 27 juillet, je compte sur vous pour ne pas aller à Ramatuelle, pour ne pas jouer le jeu sadique de Monsieur Boujna et de sa clique de saltimbanque. Monsieur Boujna qui n'hésite pas à employer des expressions comme « pique-pendre », « si tu veux, tu peux », « la vérité est dans le mensonge ». Michel Boujna s'attire un continent qui joue avec une couille normale, une couille tordue, et qui chie dans son front quand il tourne. Cet été, pas de Ramatuelle, tout le monde en Albanie. Sinon, si vous croyez toujours aux valeurs du bonheur et du partage, mon Dieu, quelle horreur, rendez-vous donc le 27 juillet, vous pouvez rester jusqu'au 11 août à Ramatuelle, vous y trouverez un Michel Boujna accueillant, heureux et aujourd'hui propre. Rien que d'y penser, ça me dégoûte.
Merci, Daniel. en barre de ce festival de Ramatuelle à partir donc, comme vient de le dire Daniel, du 27 juillet. On a parlé d'Harpagon et de L'Avare que vous jouerez le 15, à partir du 15 janvier, au théâtre des variétés. Il y a-t-il eu des tournages? Est-ce que vous avez, ou de l'écriture de films ou de la réalisation de films? Vous en êtes où?
J'écris mon nouveau spectacle qui s'appelle L'Adieu des Magnifiques, première partie. Parce qu'il y aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et si on me dit, mais pourquoi tu fais autant de parties, je répondrai, est-ce que vous posez la même question aux gens qui font la guerre des étoiles? Et s'ils continuent, je dirais, je t'emmerde, je fais ce que je veux. Donc, ça c'est une chose. Et puis j'écris un film sur l'histoire d'un homme qui a réussi, qui a gagné beaucoup d'argent et tout ça, et qui est obligé pour renouer un lien avec son fils, de faire semblant d'être pauvre. Voilà. Et c'est un film sur la réussite, sur l'échec, sur l'argent, sur la misère. Et...
Ouais, c'est un film d'amour père-fils aussi, j'ai l'impression.
Oui, absolument, absolument. Et c'est quelqu'un qui est confronté à ses origines sociales. Et qui les a rejetés, quoi. Il supporte pas la pauvreté, il supporte pas la misère, il supporte pas tout ça. Il veut plus jamais en entendre parler. Sauf qu'il va être obligé de retourner dans la banlieue où il est né. Et voilà.
Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'il y a dans l'ADN de ce que vous faites sur scène ou au cinéma quelque chose qui est pour vous incontournable? Est-ce que ce sont des valeurs ou une valeur qu'il faut avoir systématiquement dans toute écriture? Ou alors l'idée de se dire, il faut que mes films, mes spectacles soient systématiquement là pour poser des questions ou apporter quelques réponses.
En tout cas, c'est des questions que je me pose moi. Et les réponses, en général, je les ai pas. Je sais pas pourquoi j'écris, moi. C'est obsessionnel, c'est tout. J'ai des thèmes obsessionnels. Là, par exemple, c'est une phrase qui dit « Jette ton bâton en l'air, il retombe toujours à la même place. » Tu peux pas éviter d'être qui tu es. Tu peux pas te renier. Quoi que tu fasses, tu peux pas te renier. Et si tu le fais, tu seras malheureux. Et tu seras peut-être pas malheureux dans ton boulot ou ailleurs, mais tu seras malheureux. Ça, j'en suis profondément persuadé. Donc, au fond, ça revient toujours dans ma vie, cette histoire-là. Que ce soit par rapport à ma culture, que ce soit par rapport à mes origines sociales. Moi, j'avais un grand-père qui était analphabète. C'est comme ça que les histoires, elles arrivent. J'y peux rien. Et si je les écris pas, je suis malheureux. Bon, donc, il faut que je fasse mon travail. Et puis, si les gens ils sont touchés ou si ça les fait rire, parce que c'est drôle, évidemment. C'est souvent drôle. C'est souvent triste et drôle. Ça, je peux pas l'éviter non plus. Je sais pas comment je fais. Le jour où j'ai la recette, je vous jure, j'écris
des excuses
pour dire à tout le monde, voilà comment faut faire.
À présenter, Daniel.
Oui, déjà, désolé, bien entendu, pour tous les chauffeurs de taxi qui, à la suite de la chronique de Morgane Cadignan, craignent fort pour leur boîte à gants. Je comprends. Courage, les gars. Désolé maintenant pour Benjamin Biolay, Philippe Catherine, Alain Souchon et tous les autres chanteurs débutants qui vont se faire punir par Michel Bougenard. Il a prévenu, il veut entendre les paroles, surtout pas la musique. Et désolé enfin pour toutes les marques de couches et autres protections urinaires et fécales qui ont compris trop tard qu'il y a quelques années maintenant, ils ont raté le partenariat du siècle avec Michel Bougenard dans Trois hommes et un couffin.
Merci Daniel, merci Michel. Bon festival de Ramatuelle du 27 juillet au 11 août. Rendez-vous lundi pour la fête de la musique avec Clara Luciani sur la terre. Voici les carrés de campagne.